18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Chers auditeurs, chers auditrices de Beurre FM et les amoureux de sport, les amoureux de Time Sport, je vous rappelle que c'est votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h à 19h. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, enfin avant je vais vous parler du programme, on y reviendra dans quelques instants évidemment, la Ligue des Champions. Et
Tu démarres très bien Guillaume.
Je démarre très bien mais je voulais vous présenter d'abord. On va parler de la Ligue des Champions avec évidemment vainqueur à l'extérieur face à Schalke 04 en 8ème de finale. Allez de Ligue des Champions ce mercredi 2-3. Voilà, on y reviendra. On parlera également de l'école des agents de joueurs de football avec son fondateur et son président Sidney Brutinowski. Je le dis bien.
C'est un début de démission
Brutinowski. Voilà, j'étais dessus. Et la Ligue 1 avec PSG Montpellier, la balade des gens heureux, la victoire des Parisiens 5 buts à 1 au Parc des Princes. Et enfin, on parlera de la Ligue Europa avec le Betis Séville qui affronte Rennes ce soir. C'est parti pour Time Sport.
Time Sport.
Et donc, pour nous accompagner, Marion Hedalo, Karim Baldé, Claude Tollet, Kamel,
Aïkera.
Bonsoir tout le monde.
Il y a beaucoup
de monde autour de. Et surtout, il y a un invité, voilà, Sidney Brunitowski. C'est bien ça?
Ouais, non, toujours pas. Juste Sidney. on va la faire avec Sidney ce soir. Juste Sidney.
Juste Sidney, ouais. Ça ira.
Et pour les auditeurs, c'est Brutinowski.
Brutinowski.
Voilà.
Ah, mais Gabi, il est Sidney. Ils vont croire que Sidney Govou.
C'est ça.
Ouais, c'est juste
Sidney. Ou Sidney, le rappeur, l'ancien.
Non, mais en tout cas, on aura l'occasion de le présenter plus en détail en deuxième partie d'émission, justement. Il est président de l'école des agents de joueurs de football. Jusqu'à là, c'est bien.
C'est bien ça.
Bon, et ben c'est parfait. Mais on va passer tout de suite au ras-le-bol et à la Ligue des Champions.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et donc, comme je le disais, vainqueur à l'extérieur face à Schalke 04 en 8e allée de Ligue des Champions ce mercredi 2-3. Voilà, Pep Guardiola qui estime que son équipe n'est pas encore prête à gagner la coupe aux grandes oreilles cette saison. On va revenir un peu sur ce match de Ligue des Champions hier. Voilà, vos avis déjà, on va avoir votre impression un peu sur ce match, Marion.
Alors sur ce match-là, j'espérais beaucoup que tu ne m'interroges pas sur ce match-là parce que j'ai regardé le match de l'Atlético. Donc déjà ça démarre très fort.
Mais en tout cas
sur ce qu'a dit Guardiola sur le fait que City, voilà, il se met un peu, comment dirais-je, j'aime pas Guardiola quand il dit ça parce que voilà, c'est le meilleur pour dire des choses du style Bielsa, le meilleur entraîneur du monde. C'est le meilleur pour dire oui voilà, City ne gagnera pas alors que. Il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que City ne gagnera pas la Ligue des Champions à la fin de la saison. Mais voilà, c'est très prudent, c'est toujours beaucoup de communication. Bon, il a raison, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, donc après tout, pourquoi pas. Mais là où un Ancelotti ou même un Mourinho dirait une phrase du style « Oui, Schalke nous a donné du fil à retordre, ça sera difficile, le retour, genre. » Guardiola déjà se met tranquille en disant non mais attention hein, n'attendons pas trop de City alors qu'on est en droit d'attendre beaucoup de City comme on attend d'ailleurs du PSG, comme on attend de la Juve, comme on attend de l'Atlético.
D'ailleurs à ce propos l'entraîneur de City qui dit voilà que son équipe doit être plus solide et attentive en particulier dans cette compétition, le résultat est incroyable, 3 buts à l'extérieur mais nous avons concédé des buts et pris un carton rouge. Une petite réaction Karim sur ce match.
Oui, et puis par rapport à ce que disait Marion l'instant, Pep Guardiola, je pense qu'il est quand même conscient des limites. Alors, il y en a très peu quand même, parce que City, c'est une armada offensive incroyable. C'est un Leroy Sané avec son coup franc, par exemple, hier soir, magistral. Ils sont quand même revenus et ils ont réussi à gagner ce match 3-2, alors qu'ils étaient à 10, une partie de la seconde période. Ils étaient menés pendant ce match. Donc, quand même, quand on remet dans le contexte, c'est quand même une belle remontée, on va dire. C'est pas une grosse prestation, mais au moins, c'est une belle remontée de la part des joueurs de Guardiola. Mais pour revenir sur la question. Bah, c'est vrai qu'il y a des failles, et notamment en défense centrale. Ça, on le sait. Et on voit Otamendi qui se fait expulser. Otamendi, c'était pas le meilleur défenseur central du monde. Kompany, certes, c'est une icône dans ce club, mais il est souvent blessé. On sait jamais quand la rechute va arriver. Donc, forcément, quand on veut gagner avec des champions, il faut être bon sur toutes les lignes. Et malheureusement, à City, il y a un problème en défense centrale. Et le deuxième problème, c'est que Fernandinho sera suspendu pour le match retour. Et Fernandinho, on l'a vu en mois de décembre, c'est le seul rouage au milieu de terrain. C'est le seul joueur indispensable. Ils n'ont pas deux Fernandinho, ils ont un Fernandinho. Ils ont tout un effectif. Mais n'ont qu'un Fernandinho. Et dès qu'il n'est pas là, c'est la cata. On l'a vu contre Crystal Palace, contre Leicester par exemple.
En tout cas, ce match, c'était très compliqué pour l'équipe de Manchester City qui l'a emporté dans les dernières minutes, hein, à la 90e minute. Claude, notre coach Tollet, qu'est-ce qu'il en pense de ce match? Évidemment, c'est pas mal pour Schalke, hein, de 2-3 face à Manchester City. On ne pouvait pas espérer mieux pour Schalke.
Qui n'est pas une petite équipe, hein, Schalke, attention.
Oui, ils n'ont pas des très bons résultats.
Oui, ils sont un petit peu moins bien. Maintenant, pour en revenir à City, on parle de la défense centrale, mais pour qu'une défense soit solide, il te faut un milieu de terrain aussi solide. Et quand tu joues comme hier soir avec Gundogan, De Bruyne et Silva dans un milieu à trois, alors forcément t'optes pour tu sais la possession de balle, donc c'est le style de jeu de City. Mais dans les moments où tu n'as pas le ballon, c'est là où le danger est là. Et malheureusement, quand je vois déjà cette animation, alors déjà que la défense n'est pas l'assurance tout risque, mais en même temps le milieu de terrain dans le jeu sans ballon est en difficulté, donc l'armada offensive c'est très bien, ça leur permettra de faire la différence. Par contre, si tu veux gagner avec des champions, faut être solide, faut qu'ils trouvent vraiment l'équilibre entre son secteur offensif et défensif.
Une parenthèse d'ailleurs, une parenthèse rapide, comment la Belgique a pu imaginer même qu'elle allait pouvoir gagner la Coupe du Monde avec Compagnie qui est vieillissant et Witzel et Fellaini en milieu de terrain. Voilà, ça, c'était la parenthèse.
C'était une petite parenthèse. Avant de te donner juste la parole, Kamel, j'aimerais avoir ton avis un peu sur ce constat un peu étonnant de la part d'un entraîneur comme Pep Guardiola, malgré une victoire. C'est vrai qu'il attendait sûrement plus de ses joueurs, mais son constat à la fin du match est assez... Il est assez critique quand même envers
lui. Il est critique envers lui-même, quoi, je pense, parce qu'il joue petit bras. Parce qu'il a, c'est vrai qu'il a été touché par les propos des journalistes qui lui ont dit que s'il avait gagné la Ligue des Champions à Barcelone, c'est parce qu'il y avait Messi, il y avait Iniesta, et que voilà, et que sans des joueurs exceptionnels, il n'était pas capable de gagner une Ligue des Champions, parce qu'on l'a vu avec Bayern de Munich. Mais moi, je trouve qu'il joue petit bras, et puis c'est aussi une façon d'ouvrir le parapluie, quoi. Il se protège, il se dit voilà, on n'est pas favori. Excusez-moi du peu, compte tenu de la puissance financière qu'il a, si lui il n'est pas favori, voilà, on gagne pas Ligue des Champions avec des marguerites. Donc je pense que non, il joue petit bras, il dénature son équipe, et enfin c'est une façon de se protéger. Moi, je pense que c'est pas bien vis-à-vis de ses joueurs, vis-à-vis de son entourage. Il est soi-disant le meilleur coach du monde. Faut qu'il assume et qu'il dise oui, l'équipe c'est moi qui l'ai construite. Il y a des manques, mais s'il y a des manques, ça vient aussi de lui, parce que c'est lui qui a choisi les joueurs, compte tenu de la puissance financière qu'il a. Mais moi, je trouve que oui, il est marqué par les propos qu'on lui a dit. Voilà, il serait pas capable de gagner. Maintenant, c'est un challenge. S'il la gagne, ok. S'il la gagne pas, eh ben les propos des journalistes espagnols concernant Messi et Iniesta seront avérés.
Avant de reparler de ce match, une petite réaction, Sydney. Je vais dire Sydney, ça va être beaucoup plus simple, justement sur ce match et surtout sur ce constat de Pep Guardiola.
Bah, je pense que le constat est effectivement de sa part une preuve de prudence et de pas se mouiller pour l'avenir. Maintenant, on parle de puissance financière, ça fait pas tout. Il faut aussi galvaniser les hommes, et même si on est le meilleur entraîneur ou qu'on se prétend être le meilleur entraîneur, peu importe, il faut d'abord avoir les hommes sur le terrain capables d'aller mouiller le maillot pour aller arracher des victoires, et surtout avoir une cohésion de groupe assez importante.
Est-ce qu'on doit-on pour autant s'attendre à voir les Citizens, par exemple, passer une correction à Schalke 04 au retour pour remettre les pendules à l'heure?
Je sais pas si, je pense que il doit y avoir vraiment une preuve de volonté de la part de l'équipe de pouvoir se mobiliser pour aller chercher bien plus que ce résultat-là, et de pouvoir aller chercher plus loin sur toute l'équipe. Sur le papier, quand même assez agréable.
En tout cas, on va revenir un peu sur ce match. Est-ce que Schalke a des chances, pourquoi pas, au match retour, Marion? Même si t'as pas forcément suivi.
Non, mais je ne suis pas beaucoup Schalke 04, hein, pour être très franche.
C'était un peu le petit poussé de ces huitièmes de finale, Schalke.
Oui. Bah, il y a aussi la Roma, Porto, voilà. Mais est-ce que si Schalke passe, et moi j'ai quand même des doutes, mais imaginons que Schalke passe, ça va être le Bayern, le PSG ou les autres vont en faire qu'une bouchée. Donc voilà, ça sera peut-être la surprise des quarts de finale. Après tout, ils ont déjà été en quart il y a une petite dizaine d'années, donc pourquoi pas.
Karim,
le problème c'est que Schalke, c'est les montagnes russes, que ce soit en championnat, et ce qui explique leurs résultats moyens et leur classement moyen en Bundesliga. En Ligue des Champions, c'est pareil. Donc moi, je vois pas comment Schalke peut passer. C'est pas possible. Ils prennent 3 buts à la maison. On connaît la règle du but à l'extérieur. Et au match retour à l'Etihad Stadium, je vois honnêtement pas comment City pourrait se faire sortir par Schalke.
En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, puisque après le match
aller, il y aura... remontada un peu sur là. Voilà. J'ai passé pour un idiot.
Il y a le match retour bientôt. Restez connectés sur Beurre FM. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Sydney Broutinowski.
C'est ça.
Voilà, fondateur et président de l'école des agents de joueurs de football. Et on va parler également du PSG, de la Ligue 1, avec notamment la victoire des Parisiens hier au Parc des Princes. À tout de suite sur Beurre FM.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
On est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec vos consultants Marion Edalo, Karim Baldé, Claude Tollé, Kamel yes. Aïd Kera et surtout notre invité Sidney Broutinovski. Ah. Voilà. Hey. Hey. Voilà, on peut m'applaudir quand même, c'est bon. C'est bon, deux fois la filée, c'est bon. Ça mérite au moins un applaudissement. En tout cas, on va parler surtout de l'école des agents de joueurs de football, c'est tout de suite. C'est incroyable, mais vrai.
Time Sport.
Eh oui, et le réalisateur, voilà, c'est incroyable, mais vrai. C'est l'heure de notre invité. C'est Sidney Broutinovski, fondateur et président de l'école des agents de joueurs de football. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette école, je crois, qui est née en 2009 à Paris?
En 2009 à Paris, effectivement, donc on entame notre 10e année d'existence. Notre institution a pour vocation d'accompagner chaque personne qui souhaite devenir agent de joueur et donc préparer l'examen qui est orchestré par le CNOSF et la 3F. Donc l'examen se divise en deux parties. Une première partie sur le droit, donc les 9 matières de droit, droit des contrats, droit des assurances, droit fiscal, tout pour faire rêver. Et il faut avoir 10 pour être qualifié à la seconde partie où il faut avoir 14. La seconde partie, on parle plus des réglementations spécifiques liées au football national et international. C'est une formation qui accompagne toutes les personnes désireuses d'embrasser cette carrière. Ça se prépare. Le métier d'agent de joueur, c'est pas un métier qui s'improvise. Et donc nous sommes là pour accompagner chaque étudiant.
Et donc une formation présente à Paris, à Lyon pour le moment, c'est ça?
Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux.
J'en ai oublié pas mal. Je sais que en 2009 c'est Paris, en 2014 il y a eu Lyon et après il y a eu d'autres ouvertures.
Exactement, simultanément à Marseille, à Lille, à Nantes, à Bordeaux et Lyon, vous l'avez dit, donc c'est parfait.
Et comment a germé l'idée d'un tel concept ?
J'ai voulu moi-même devenir agent de joueur de football et j'ai grandi non loin d'ici, à Maison Alfort, donc très proche de Créteil, Maison Alfort. Je suis né à Saint-Denis, donc un environnement propice au sport et c'est souvent le football qui ressort parce que c'est le sport le plus facile à jouer. Il suffit d'un ballon et avoir des amis, pas forcément, mais en tout cas il suffit d'être plusieurs. Et à un moment donné, moi je suis issu de l'immobilier et on me posait des questions sur le fait de la relecture d'un contrat, etc. Donc j'étais absolument pas spécialisé en droit du sport. Et j'ai voulu devenir moi-même agent et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait. Et donc, par la suite, j'ai créé la formation que moi j'aurais voulu avoir et nous avons commencé des cours au Parc des Princes en 2009. Et donc, du coup, après l'idée a germé, nous avons ouvert plusieurs antennes à travers la France.
Et donc, dans cette, si on peut dire un peu, cette jungle qui est le sport business, le football en étant la vitrine la plus éclatante, quelles sont vos méthodes pour prémunir vos aspirants agents des écueils et choses trappes qui s'élèveront sur leur chemin demain? Quelles sont les méthodes un peu de formation?
Il y a deux volets, perdons pas d'objectif. La première étape, c'est la réussite à l'examen, puisque sans ce fameux sésame, vous ne pouvez pas être reconnu comme agent de joueur et ni officier d'ailleurs. C'est interdit par la loi et c'est une peine pénale, tout simplement. Et donc il y a ce premier volet pédagogique, donc on accompagne chaque étudiant à travers 4 programmes à la réussite et l'obtention de ce diplôme. Et il y a aussi la préparation au métier. C'est un métier qui s'apprend pas dans les bouquins, malheureusement. Et heureusement, du coup, parce qu'on a aujourd'hui, à travers certains de nos programmes, l'ensemble des clubs français et certains clubs étrangers qui viennent échanger avec nos étudiants pour leur transmettre leur ADN. Voilà comment ça fonctionne. Moi, je suis un club de Ligue 1. Voilà comment je fonctionne. Un club de Ligue 2, un club de National ou un club anglais. Et c'est comme ça qu'on forme la nouvelle génération d'agents, une nouvelle génération capable d'appréhender les différents points économiques, sociaux, sociétaux, etc. Le football d'aujourd'hui n'est plus le football d'antan. Vous parliez du sport business, du football business, ça génère énormément de milliards à travers le monde entier et on assiste depuis quelques années à une professionnalisation du football et ça passe aussi par la professionnalisation des acteurs qui y gravitent.
Il y a sûrement des auditeurs qui auraient aimé ou qui aimeraient être agent de joueurs, qui se disent peut-être voilà, on n'a peut-être pas le réseau. Et est-ce que c'est un prérequis avoir un réseau?
Un réseau, c'est pas un prérequis. Après, c'est sûr que si on se dit je veux être agent de joueur et tout de suite aller faire des deals avec le Paris Saint-Germain, Manchester City ou Monaco, là effectivement il vous faut un réseau, il faut s'appeler Pinza Avi et des grands noms qui eux aussi ont commencé quelque part et pas forcément dans la lumière tout de suite. À travers nos programmes, on vous présente encore une fois plus de 40 clubs français et clubs étrangers tout au long de l'année. Vous avez la possibilité d'échanger avec des professionnels du monde du football. Je prends le cas du programme programme de la formation multimodale où nos étudiants sont en immersion dans un club professionnel. Cette année, enfin 2018, nous étions au Havre. L'année d'avant, nous étions à la Real Sociedad et ça permet à nos étudiants de comprendre comment fonctionne le football de l'intérieur. Si l'idée de base, et je m'adresse là à vos auditeurs, si l'idée de base c'est de se dire je veux travailler dans le football, ça suffit pas. Il faut vraiment vouloir devenir agent de joueur. Il y a énormément de métiers qui gravitent autour du football sans pour autant de vouloir devenir agent de joueur. C'est vraiment une vocation et ça s'apprend, encore une fois.
Et donc c'est quoi la plus grande difficulté pour un agent de joueur? Avant de laisser la parole à nos consultants, notamment Kamel qui aimerait poser une question, c'est quoi la plus grosse difficulté? Ce que vous dites à vos étudiants, enfin à ceux qui suivent vos formations?
Il y a pas de réelle difficulté, il y a pas de métier facile, enfin le métier de journaliste, le métier de boulanger, tout est difficile, il y a pas de métier miracle et le métier d'agent n'en fait pas exception. Aujourd'hui, il faut être conscient du cursus et de la difficulté de l'examen dans un premier temps et ensuite de ça, on accompagne nos étudiants bien au-delà du diplôme. On a le titre école effectivement, mais notre réussite passe par celle de nos étudiants avant tout. Donc les freins, il y en a pas, il faut juste être conscient que être agent de joueur, parfois on se pose la question, est-ce que j'ai besoin de trésorerie, pas besoin de trésorerie, alors que effectivement il faut avoir de la trésorerie, peu importe le métier, ou à partir du moment où on veut devenir chef d'entreprise, qu'on souhaite ouvrir une pizzeria ou se mettre à son compte, il faut avoir de la trésorerie, et le métier d'agent de joueur, encore une fois, n'en fait pas exception.
En tout cas, il n'est pas facile ce métier d'agent de joueur, mais c'est comme comme vous le rappelez à l'instant, justement il y a d'autres métiers, le métier de journaliste aussi est difficile, voilà, et puis le réseau se crée au fur et à mesure. Kamel, tu souhaitais poser une petite question à notre invité.
Kamel, il a l'air fâché, hein. Ouais.
Non, je suis concentré parce que moi j'aime bien quand il y a des sujets à y travailler, donc moi j'aimerais déjà donner un petit point de règlement pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc le métier d'agent au niveau international, il a été réglementé par la FIFA, donc il y a eu un changement. Donc maintenant, au niveau de la FIFA, la FIFA a abandonné le système de licence, hein, et donc c'est un système d'intermédiaire. Donc à l'étranger, vous pouvez, en tant qu'intermédiaire, il faut juste vous déclarer devant la fédération, hein, qu'elle soit étrangère, pour exercer. En France, par contre, c'est bien cadré, hein, c'est cadré par la licence d'agent, hein,
c'est une loi.
C'est une loi, qui est la licence d'agent, qu'on doit la renouveler tous les 3 ans, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Mais par contre, le problème, moi je pense.
Il n'y a pas de taux, enfin, la licence, à partir du moment où vous l'avez, elle est
acquise. Mais vous devez la renouveler, vous devez faire un mois à l'avance, si, vous devez la renouveler, quoi. Pas le repasser, mais renouveler la licence. Ce qui est important au niveau de en France, c'est que maintenant les avocats sont habilités à négocier les transferts avec les joueurs. Et c'est là où c'est un peu difficile pour les agents, parce que un agent qui vient de commencer, qui va vouloir travailler avec un joueur, le joueur a la possibilité de consulter un grand cabinet d'avocats pour justement gérer son transfert, comme ça a été fait avec Kylian Mbappé. Il n'y a pas eu d'agent, il y a eu un cabinet d'avocats. Donc c'est ça. Après le rôle d'agent, c'est vrai. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que il y a des gens, voilà. Moi, j'en ai connu dans mon quartier. Hein, ils étaient boulangers, ils étaient libraires et voilà, ils ont vu les sommes à la télé. Ils veulent être agent. Ils veulent tous être agent maintenant. Donc non, moi, je pense que c'est quand même faut avoir baigné pendant des années toute sa vie dans le football, faut connaître les particularités du football, du métier. Et après, ce qui est important, ce que tu disais, Guillaume, c'est le réseau. Si t'as pas de réseau, t'es rien. Ou à moins d'avoir la chance de connaître, comme si c'est passé avec Dembélé, t'as ton petit copain du quartier, de la cité, qui grandit comme Dembélé, t'es son conseiller.
Est-ce que c'est pas forcément cette erreur que même qu'on fait aussi au sein du journalisme, de se dire faut un réseau. Est-ce que le réseau, on peut pas se le créer?
Ah ben, de toute manière, alors j'apporte quelques éléments de précision. Effectivement, je le soulignais, mais la licence, à partir du moment où vous l'avez, elle est acquise. On parlait du cas d'Ousmane Dembélé. Peu importe que ça soit son copain de quartier ou peu importe. Aujourd'hui, il est géré par un agent qui a la licence malienne. Il a la licence, il a le titre d'agent. Qu'il fasse bien son travail ou qu'il ne le fasse pas, en tout cas, il est dans les clous. Il respecte la loi. Non, mais c'était pas les propos que je tenais. C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, il faut avoir un réseau. Mais quand vous commencez en tant qu'agent, vous n'allez pas commencer à dealer avec des top clubs. Vous allez grandir en même temps que vos joueurs. Ils vont être en national, en centre de formation, et puis ils vont exploser. On prenait le cas d'Ousmane Dembélé. Il a été accompagné par un avocat mandataire sportif à un certain moment. Puis ensuite de ça, il a changé d'agent. Et c'est ça aussi qui doit être un challenge pour l'ensemble des agents. C'est c'est une compétition, en tout cas une concurrence saine entre les agents. Et le joueur de football n'est pas un produit marketing. À partir du moment où il ne se sent pas épanoui avec son agent, ou pas entendu, pas écouté, ou un point avec lequel il n'est pas en accord, il doit changer d'agent, il doit être accompagné. L'avocat mandataire sportif aujourd'hui peut représenter un joueur, il n'a pas le droit de démarcher, mais il peut aujourd'hui aussi réaliser des opérations dans l'immobilier puisqu'ils ont le titre de mandataire pour l'immobilier. Donc Allez-y.
Une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est pour ça justement qu'il y a certains joueurs qui préfèrent fonctionner de manière un peu familiale? C'est le cas de Neymar, c'est le cas de Clément Lenglet, c'est le cas voilà de fonctionner avec leur famille et leurs proches justement en général. Par exemple sur le cas de, oui, mais c'est, sur le cas de Neymar, c'est son père. Donc voilà. Après, il y a beaucoup peut-être de fantasmes autour du métier d'agent joueur.
Vous parlez des top players.
Bien sûr.
On parle de Mbappé, de Neymar. La réalité, c'est que même sur le transfert de Neymar, il y a un agent, il y a Isavi qui œuvre derrière, et même l'arrivée de Neymar en Espagne, c'est Puniza à vie. Donc il y a toujours un agent. Après, effectivement, quand on est parent et quand on est peut-être passionné du football, on a envie de donner son avis, de conseiller son enfant. Mais je pense que chacun doit rester à sa place et que le professionnalisme d'un agent ne doit pas être remplacé par l'amour maternel ou paternel que des parents peuvent avoir.
Petite dernière question, quel est le comment ça fonctionne, quel est le mode de recrutement, et pour les auditeurs et les auditrices qui ont envie d'être agent de joueur, quel est le fonctionnement, comment faut procéder, faut aller sur un site internet?
Alors effectivement, on a notre site internet www.eagf.fr. On peut également vous recevoir lors d'entretiens individuels, et on met un point d'honneur à vraiment échanger avec chaque candidat avant son inscription, pour effectivement rappeler les difficultés de l'examen, que le métier n'est pas facile, et il ne suffit pas d'être bon à côté match ou à Football Manager pour pouvoir espérer être agent de joueur de football. La réalité, c'est celle-ci. Vous souriez, mais c'est vrai que quand on entend que beaucoup de personnes veulent devenir agent, c'est facile d'allumer sa télé et de dire un transfert à 200 millions, bon, c'est beaucoup. Même moi, si j'arrive à me placer sur un deal à 1 million d'euros, bon, bah, ça me va très bien. La réalité, c'est que même pour arriver sur un deal à 1 million d'euros, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et de professionnalisme.
Avant de passer, comme il nous reste 2 minutes maintenant, on va continuer un peu à parler du métier d'agent de joueur de football. Karim, tu veux poser une petite question avant qu'on parle du PSG au retour de la pub?
Oui, j'avais juste une question, parce que ça fait maintenant 10 ans, comme vous l'avez dit, que l'école a été créée. Comment percevez-vous les vocations? Vous dites que justement, il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui veulent devenir agent, et c'est vrai qu'on entend ça partout. Est-ce que vous sentez justement ce mouvement-là, le fait que voilà, ces vocations-là soient de plus en plus ancré en certaines personnes aujourd'hui par rapport à, disons, au moment où vous avez créé l'école?
Ouais, bah c'est, ça s'explique. En 2009, j'avais 10 étudiants. Aujourd'hui, ils sont 300 à travers la France. Je pense que la deuxième étoile sur le maillot aide aussi à créer des vocations. La connaissance, tout simplement, du métier. On a souvent catalogué les agents comme les hommes de l'ombre. L'attribution de la licence, il y a quelques années, se faisait sur le dépôt d'une somme d'argent en Suisse. Donc forcément, ça occultait aussi et ça empêchait certaines personnes de pouvoir accéder à cette profession. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout à chacun peut devenir agent de joueur. Des marchés émergents, il y a l'Asie qui pousse fortement. Il y a les États-Unis qui vont à un moment donné se poser la question de changer le système des ligues fermées et de.
Ah, vous pensez justement par rapport à la MLS?
Ils seront obligés et ils ont déjà les infrastructures. Il leur manque plus que le fait de passer sur le fait d'acheter des joueurs et de revendre des joueurs. Puis quand vous parlez à un propriétaire d'un club, de revendre des joueurs, tout de suite, à mon avis, ça fait bling dans les yeux. Donc c'est intéressant. Et le marché, aujourd'hui, vous êtes agent de joueur licencié par la Fédération Française de Football, donc régi par le droit français, mais vous pouvez avoir des joueurs dans le monde entier.
Karim, un petit rebond par rapport à ça? Toi qui aimes bien le basket?
Oui, pas mal le petit rebond, mais juste un message plus qu'une question sur le côté réseau. Et là, c'est plus en tant que journaliste, parce que c'est vrai que à la base, moi, quand j'ai commencé ce métier, je connaissais pas de joueurs, par exemple. Mais pour avoir du réseau, il faut, à un moment donné, aller dans les stades, que ce soit les grands stades ou les petits stades, notamment pour les agents, même des matchs de National 2 et de toutes les divisions inférieures, pour peut-être tester les pépites. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, un joueur plus un joueur plus un joueur. Et nous, c'était comme ça. Moi, je suis les joueurs africains, par exemple. Au début, on connaissait personne il y a 3 ans. Puis maintenant, voilà, on voit les joueurs, on les recroise, on a des contacts et ainsi de suite. Après, on va voir les sélections. Et c'est comme ça que ça grandit. Donc, c'est plus un message pour dire que tout est possible, finalement. On peut partir de zéro et construire un réseau au fur et à mesure. Et c'est pour ça que
exactement.
Même pour le métier d'agent, c'est un métier qu'on peut faire à partir du moment où il y a la passion et à partir du moment où on arrive à construire ça.
Et pour exemple, nos étudiants sont partis en séminaire donc en décembre dernier au Havre. Ils ont rencontré Pierre Ventier, qui est le nouveau directeur général. Ils ont rencontré François Rodriguez, qui était avant Paris Saint-Germain, etc. Donc ça leur permet d'échanger, de comprendre,
d'avoir un aperçu.
Et le but de cet échange, aussi bien pour le club que pour le futur agent, c'est de repartir avec le numéro de téléphone. Et ça se construit comme ça le 29 mars prochain, nous partons à Manchester City et Manchester United avec nos étudiants en formation élite. Nous avons fait l'Ajax, nous avons fait Feyenoord. Donc on offre un réseau et le but c'est pas juste de faire des stories Instagram, même si c'est à la mode, c'est vraiment de pouvoir offrir à nos étudiants les clés de la réussite. Alors effectivement, si on n'a pas le joueur qui match avec Manchester City ou United, bah, va falloir attendre, mais on peut déjà échanger, ne serait-ce que sur le recrutement des jeunes.
En tout cas, pour je pense que les auditeurs et les auditrices auront compris, si jamais vous voulez être vous voulez rejoindre l'école des agents de joueurs de football, il y a un site eagf.fr, c'est ça?
C'est bien ça.
Et donc voilà, il y a tout qui est détaillé sur le site. En tout cas, vous pouvez retrouver l'interview de Sidney Broutinovski, voilà.
Ça mérite encore un
cadeau. Voilà. Merci. Merci, ça sera sur beurrefm.net à la fin de l'émission. Restez connectés sur beurrefm dans quelques instants. On va parler du PSG, notamment de sa victoire face à Montpellier 5-1 hier au Parc des Princes. On parlera également de la Ligue Europa avec le Betis Séville contre Rennes. À tout de suite sur beurrefm.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur beurrefm. 18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport à fond la caisse avec vos consultants Marion Hédalo, Karine Baldé, notre coach national Claude Tollet, notre invité Sidney Broutinovski. Voilà. Ah.
Hey. Non mais.
Encore,
non,
c'est bon.
Bravo.
C'est bon, c'est bon.
Bravo.
Voilà.
Bravo.
C'est bon quand même.
Bravo.
Non mais j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie d'être le dernier.
Guillaume
et
Kamel. Ascari, enfin.
Eh ben voilà, tu t'es
Guillaume
trompé.
Ascari.
Ouais. Et Kamel Aïkera, voilà, je le prononce bien. En tout cas, on a parlé du métier d'agent de joueur de football. Maintenant, on va enchaîner avec la Ligue 1, le Paris Saint-Germain. C'est l'heure de la victoire.
Time Sport, la victoire.
Et quelle victoire! Quelle victoire! 5-1!
Mais oui, contre la deuxième meilleure défense de France.
Et bah alors, non mais quand même, faut en parler.
Et le coaching normalement gagnant de notre ami Der Zakarian. Non mais moi vraiment, je m'y attendais un petit peu, je dois vous dire, parce que j'avais plein d'amis qui me disaient non, ils vont faire match nul, ils vont y aller tranquille, ils vont nous sortir la carte Choupo-Moting, etc.
Bon, bref, Montpellier va gagner, non? On t'a pas dit ça quand même.
On m'a aussi dit Montpellier allait gagner, machin. Mais moi, je suis ravie de toujours voir, j'ai un plaisir fou, moi, avoir Mbappé, avoir André Di Maria, que je trouve incroyable. Je sais, on me dit souvent, oui, mais on le voit pas pendant 80 minutes, oui, mais enfin, le plus important, c'est qu'on le voit les 10 dernières, ou 10 minutes dans le match, ou même 2 minutes dans le match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ce match était fou, de la 69e à la 79e. Et voilà, pour ceux qui l'ont vu, ou ceux qui étaient au stade, qui étaient au Parc des Princes, comme Karim, obligatoirement, c'est du plaisir. C'est agréable d'avoir cette équipe-là en Ligue 1.
Alors, c'est surtout de la 73e à la 79e, c'est là que le match est parti totalement.
J'ai dit 69 à 79.
Oui, t'étais pas très loin.
Et Guillaume Ascari est obligé de me dire 73 à 79.
Non, mais quand même, faut se baser sur les statistiques.
C'est vrai.
En tout cas, Karim, que penser de cette équipe du Paris Saint-Germain? Bon, c'était un match en plein milieu d'une journée de Ligue des Champions. Voilà, un match gagné largement par le Paris Saint-Germain. Bah que oui, dire
ça,
de plus?
Ça faisait partie des matchs en retard qu'avait le PSG. Ils en avaient deux. Maintenant, ils en ont plus qu'un. Et cette victoire-là, elle est logique. Ça a mis du temps. Parce que Montpellier a opposé une belle résistance. Et surtout, Montpellier n'a pas mis le bus, contrairement à ce que tout le monde pensait. J'étais à Lille-Montpellier dimanche. Un 0-0 bien moisi. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont mis le bus derrière et quand ils tiennent une période, ils en tiennent deux, Montpellier. Tout le monde pensait qu'ils allaient faire ça, finalement non. Mais moi, j'avais dit, c'est un match hyper serré, soit ils se prennent une déverrouillée, Montpellier. Et bah finalement, la deuxième solution a remporté.
En tout cas, une victoire avec, faut le noter, une cascade de blessures. Hein. Neymar, Cavani, Meunier, Verratti qui est sur le retour. Ouais. C'est suffisant, mais ça peut déstabiliser l'effectif parisien. Claude.
Il en faut beaucoup, ils sont quand même sur une autre planète.
Non, mais on a quand même recruté Neymar quand même pour faire la différence quand même.
T'es en Ligue 1 là. Enfin, je veux dire, t'es en Ligue 1.
Ligue 1 Conforama.
Ligue 1 Conforama.
Merci de le rappeler.
Ligue 1 Conforama, c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que surtout sans Neymar et Cavani, ils montrent, et ça on le savait déjà, qu'ils ont une équipe de très très haut niveau. Et chapeau à eux, parce que même si ça paraît évident, et c'est vrai qu'ils sont au-dessus de tout le monde, ils font le boulot. Voilà, ils font le boulot, ils s'imposent. Alors, peut-être que le coach demande un peu plus de rigueur, parce qu'il estime qu'il y a un manque de constance sur la durée de la rencontre. Mais je veux dire, il y a rien à dire là-dessus. Et puis Montpellier qui fait une belle résistance face aux autres équipes de Ligue 1. Enfin, le PSG, c'est autre chose, quoi.
Le PSG, c'est autre chose, c'est sûr. Quand on voit le nombre de tirs, 18 tirs, 9 tirs cadrés et 5 buts au final. Donc c'est vrai que il y a des bonnes stats.
J'aimerais bien quand même que Tourelle repose un petit peu Kylian Mbappé et André Di Maria, mais je suis sûr qu'il va le faire effectivement en vue du match contre Nîmes. Mais étant donné, enfin c'est ma marotte, hein, je le répète à longueur d'émission ici, étant donné la faiblesse du staff médical du PSG, il va falloir un moment quand même remettre tout ça à plat, parce que quand même chaque saison en huitième, il manque des joueurs. Voilà, je me souviens de la blessure de David Luiz et puis les blessures successives ces dernières années de Marco Verratti. Bref, on n'a jamais le 11 de départ à l'arrivée en huitième de finale, et ça c'est fatigant à Paris. Donc je voudrais quand même qu'il repose un petit peu Kylian Mbappé et André Di Maria. De toute façon, ce que je raconte là, vous le verrez, le Paris Saint-Germain va évidemment faire le ménage dans le staff médical, c'est obligatoire. C'est même pas révolutionnaire ce que je raconte, il n'y a même pas de débat, c'est une évidence.
En tout cas, Karim fait bien le rappeler, il manque encore un match au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est premier avec 65 points, 15 points d'avance devant Lille et Lyon et Marseille. On va passer à la Ligue Europa et notamment le match de ce soir entre le Betis Séville et Rennes. Créer l'exploit pour une qualification historique, c'est l'heure du duel.
Time Sport. Le duel.
Le duel ne pourra pas finir comme au match aller sur un 3-3. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut attendre une qualification de Rennes face au Betis Séville? On va demander un peu à notre invité qu'est-ce qu'il pense.
Bonsoir Sydney,
c'est totalement pas.
Ça, c'est une vieille technique de l'école. C'était de regarder ailleurs pour ne pas être interrogé.
C'est la radio Sydney, le deux tours. Voilà. Regardez la scène derrière quand même.
Est-ce que, même si le Betis Séville par favori de ce 16e de finale de retour de Ligue Europa face à Rennes, est-ce qu'il y a un espoir pour Rennes quand même dans ce match? Il y a quand même eu un beau match aller avec.
J'aimerais bien quand même que le club français fasse l'exploit. Je pense que gagner contre Betis c'est pas impossible, mais il va falloir. On a bien gagné. Enfin, quand je dis le Paris Saint-Germain. Bon, vous avez deviné quelle équipe je supportais.
Voilà, les auditeurs le savent, c'est bon maintenant.
Voilà. Non, mais voilà, l'exploit est réalisable. Je pense que c'est aussi ça qui fait la beauté du sport, et j'aimerais bien que Rennes gagne.
Kamel, tu justement sur ce match, créer l'exploit, les Bretons, est-ce qu'ils ont les capacités? Au match aller, ils ont réussi quand même à les déstabiliser un petit peu, l'équipe du Betis Séville.
Je vais me faire l'avocat du diable parce que j'aime bien ce rôle. Non, j'y crois pas, parce que j'ai vu le match aller, ils menaient 3-1, si je dis pas de bêtises, et ils ont eu du mal à résister avec la pression, parce que ils avaient quand même la pression, même en menant au score. Je pense qu'au Betis Séville, ils vont avoir encore plus de pression. Et moi non, j'ai vu Betis Séville, ils étaient bien meilleurs que Rennes, et le match aller, même 3-3, c'était pas le bon score, hein. Betis Séville aurait dû gagner, mais il y aura un bon match, j'espère. Et moi je pense qu'après faut être pragmatique, et moi je pense que Betis Séville va l'emporter ce soir.
Le dernier représentant français en Ligue Europa, je le rappelle, Rennes, qui a gâché un avantage, comme tu le rappelais justement, de 2 buts à l'aller, qui va devoir justement aller chercher cette qualification sans cette ferveur de son stade, puisque il joue à l'extérieur.
Et la ferveur au Roazhon Park.
Ça, il y a de la ferveur.
La plus grosse ambiance de France.
Ah, oui,
hein,
oui.
J'y étais il y a pas longtemps, désolé de le dire.
Voilà.
Non, mais c'est vrai.
On a compris que Karim n'est pas rené.
Non, mais c'est
Marion.
Non, mais c'est vrai. Après, c'est Louis II, hein. Donc, c'est vrai que ça n'est pas loin. Non, mais c'est vrai. C'est, faut être franc. J'adore Monaco. C'est d'ailleurs très dur pour Monaco, ce que je viens de dire. Voilà. Bref. On sent que j'aime beaucoup Rennes. Non, réellement. Non, il n'y a pas beaucoup. Alors, pour revenir aux chiffres, le Betis Séville, c'est 100 millions à peu près, hein, de budget. C'est 97 millions exactement. Et Rennes, si ma mémoire est juste, c'est 68. Donc déjà, c'est difficile au niveau du budget. Il faut quand même regarder aussi ça. C'est quand même très important aujourd'hui. Et puis, non, j'y crois pas. Je crois pas que le 6e de la Liga puisse perdre contre le 10e de Ligue 1. Voilà, je le dis très simplement. Et voilà, très
en tout cas, voilà. Ça, c'est l'avis de Marion.
Tout est possible.
En tout cas, Tem Ben Arfa, il a dit, pour moi, c'est du 50-50. Voilà, donc je tiens à le dire. Donc même après ce match, il y croit encore.
Bah, il va pas dire non, non. On est nul.
Il aurait très bien pu dire, écoutez, ça va être très difficile au match retour.
C'est un compétiteur, et il a bien vu qu'un match nul, voilà, ça donne aussi, non pas des ailes, mais en tout cas, on est en droit d'espérer. Moi, je dis juste que, effectivement, surtout dans des compétitions européennes, en Ligue Europa et en Ligue des Champions, plus on avance, plus le budget, malheureusement, c'est dur ce que je dis, mais l'argent prend. Là, j'ai jamais cru, voilà, j'ai jamais cru que Marseille l'année dernière sortirait l'Atlético. J'ai jamais cru que l'Atlético sortirait le Real en Ligue des Champions. Et à un moment, le budget est là, et là, c'est le cas.
D'ailleurs, avant de parler de l'Atlético, Karim, un petit mot justement. Est-ce qu'une élimination serait un gros regret au vu du match aller ou finalement normal et dans la logique des choses?
Oui, ça aurait été la logique des choses par rapport à la qualité intrinsèque des deux équipes et ce qu'on a vu au match aller. Moi, j'ai pas eu l'occasion de voir le Betis Séville jusqu'au match aller. Effectivement, il y a quand même des joueurs de qualité et notamment Lo Celso qu'on a bien connu à Paris. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'est plus à Paris. Mais peu importe.
Parce que justement, c'est un bon joueur de Ligue Europa. Oui. C'est très bien.
Ça c'est dur.
Mais pour gagner la Ligue des Champions, non. Non, je
n'ai pas convaincu. Voilà.
Je suis absolument pas d'accord, mais je vais faire comme sur Rennes. Il faut avoir ça, il faut être optimiste. Et Mbappé avait raison de le dire après le match à Manchester. Il faut être avec les clubs français. Il faut être optimiste. Rennes peut le faire. Il suffit d'une victoire 1-0. Pourquoi pas? C'est pas infaisable. C'est la première fois que Rennes quand même passe en 16e de finale de Ligue Europa. Pour eux, c'est tout nouveau. Donc peut-être qu'avec cette innocence finalement et le fait que tout le monde se dise, oh, ça paraît comme compromis. Peut-être qu'ils pourront avoir les ressources pour créer la surprise. Moi, je l'espère en tout cas.
Oui, la méthode Coué, c'est ça.
Bah, la méthode, je sais pas, mais en tout cas, il faut toujours espérer. Et Marion parlait du budget. Moi, je pense quand même qu'il faut laisser place un peu à la magie du football.
Mais
c'est laisser un peu bercer.
Naïf. Aujourd'hui, il y a tellement de surprises.
Oui, c'est vrai.
Et en Ligue Europa, c'est fou.
Il donne beaucoup de surprises, hein, c'est ça.
Il y a des surprises et il y en a eu en Ligue des Champions hier avec la victoire de l'Atlético face à la Juve.
Quelle surprise! Alors là, on s'y attendait pas du tout.
Non, mais quand même. En tout cas, tu n'es pas convaincu. En tout cas, on va en parler tout de suite.
Deux équipes quand même qui se ressemblent.
C'est quoi les budgets?
C'est l'heure de la Ligue des Champions, c'est l'heure du mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Excuse-moi, je sais que Rennes te tient à cœur.
Attends, moi j'avais des arguments parce que concernant le stade Rennes.
Dis-nous.
Il a pris des notes et tout.
C'est avec ses.
Je sais.
On respecte. Je respecte le programme Ligue des Champions.
En tout cas, la Ligue des Champions, c'est important. Il nous reste quelques minutes là. On d'en parler justement. La Juventus qui a été dominée par l'Atlético de Madrid de 2-0 avec des buts de Jiménez et Godin. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la Juventus au match retour et puis surtout ce match tu attendais toi une victoire de l'Atlético?
Non, j'attendais pas.
Et ben voilà.
Je pense que la Juve a été prise à son propre piège, c'est-à-dire est tombée sur une équipe qui lui ressemble beaucoup, c'est-à-dire où on gagne les matchs 1-0, 2-0 max, mais j'ai trouvé l'Atlético incroyable de réalisme. Non, je m'y attendais pas spécialement en plus. Non, pas du tout. Je pensais que ça ferait un match nul ou une victoire pour la Juve. Je me disais avec Ronaldo, etc., etc. Et puis, j'ai été impressionnée par Griezmann. J'étais impressionnée par le collectif. J'espère qu'ils vont pas encore être les chats noirs, parce que c'est quand même des chats noirs, l'Atlético. Ils ont perdu une Ligue des Champions en 74 et de nouveau ces quelques dernières années contre le Real. Donc je me dis, ça vaudrait le coup aussi de les voir aller un petit peu plus loin. Et voilà, je sais que Griezmann est souvent critiqué. Moi, j'ai été très impressionnée par son match hier. Ah oui, et une chose. Ah oui, non. Alors, voilà, une chose importante. Et après, je me tais. Je me tais après Claude Tollet pourra tout dire. Mandzukic. Alors Mandzukic, moi, c'est un grand mystère. Moi, quand j'entends tous les mecs qui sont autour de moi me disent, c'est un joueur extraordinaire. Peut-être, mais entre le but contre son camp quand même en finale de Coupe du Monde. Et là, quand même, il est quand même à la faute sur les deux buts quand même de l'Atlético, on va à un moment arrêter Mandzukic ou on continue à dire que c'est le joueur de l'année.
Non mais après faut, bonsoir. Après non, il y a pas que la Ligue des Champions, faut rappeler sa Coupe du Monde et puis les matchs
qui Coupe du Monde, je viens de le dire, ouais. Un but contre son camp en finale quand même
de Coupe du Monde. C'est sévère
de parler de Mandzukic seulement sur un but.
Dans les grands moments, je trouve, voilà.
Bon,
il est pas là dans les grands moments, pas jamais, mais il est pas
Marion et Mandzukic, ça fait pas l'affaire. C'est pas une histoire d'amour en tout cas. Est-ce que la Juve, est-ce qu'elle vous a surpris, Kamel, est-ce qu'elle vous a surpris cette Juve déçue de ce match un peu, de cette victoire de l'Atlético? Est-ce qu'on attendait plus de la Juve de Cristiano Ronaldo?
Bah moi je suis déçu de la Juve, oui c'est vrai, parce que je m'attendais plus à cette Juve-là, parce que je la suis en championnat d'Italie et c'est une très belle équipe. En plus bon, ils ont réussi à avoir Cristiano Ronaldo qui fait une magnifique saison. Et puis moi j'ai pas envie de donner la primeur à des équipes comme l'Atlético qui ils arrêtent pas de, c'est que défendre. Leur objectif c'est que de défendre, c'est de gagner 1-0, mettre, c'est pas le but, c'est ils mettent le TGV devant les buts. Moi j'ai pas envie de leur donner cette prime là et moi j'espère de tout mon cœur que la Juventus gagnera là-bas 3-0 chez elle, et parce que moi j'ai pas envie que des équipes comme ça qui prônent que la défense, il y a pas de plaisir à les regarder. Et puis voilà, même s'ils ont un joueur qui pensait je vais le paraffer, qui pensait manger à la table des Messi et des Ronaldo, mais j'y crois pas. J'y crois pas, on en fait trop. Il y a des joueurs, tu disais, Marion, par rapport à Mandzukic, moi, je pense qu'on en fait, je pense qu'on en fait trop par rapport, je pense qu'on en fait trop par rapport à Griezmann. Et voilà.
Qui a gagné la Coupe du Monde et la Ligue Europa.
Oui, mais, Kimpembe a gagné la Coupe du Monde. Non, mais attendez, Kimpembe a gagné la Coupe du Monde. Voilà, je veux dire, il suffisait. Giroud, il a gagné la Coupe du Monde.
Donc,
je
veux dire, voilà. Giroud aussi.
Moi, ce que je pense, c'est que, voilà, moi, j'espère que la Juventus gagnera parce que j'ai pas envie de, moi, c'est une équipe qui me fait pas, voilà, qui me fait pas aimer le football, c'est tout.
En tout cas, la Juve, le match retour entre la Juve et l'Atlético Madrid, c'est le 12 mars. Karim, un petit mot sur ce match entre l'Atlético et la Juve, notamment une Juve qui a été dominée, surtout en deuxième partie de match.
Alors, je vais essayer de réconcilier un peu Marion et Kamel par rapport à
ils ont mis l'ambiance.
Match. Mais oui, mais, moi, vous savez, je suis un homme de paix. non, mais plus sérieusement, je suis d'accord avec Marion sur le gros match de Griezmann. Ça, pour le coup, c'est vrai. Hier, il a fait un gros match. Il a pas marqué,
oui.
Mais quand même, il s'est créé beaucoup d'occasions. Il a été omniprésent. Il a pesé sur la défense de la Juventus de Turin. Après, pour revenir sur ce que disait Kamel, c'est vrai que l'Atlético, forcément, c'est pas une équipe si belle que ça à avoir joué. C'est pas les magiciens, c'est pas des créateurs comme à Manchester.
Plus,
et
mais la Juve non plus.
Mais c'est pour ça, et pas la Juve non plus. C'est pour ça qu'hier, on s'attendait à un 0-0 un peu moisi. Et quand on a regardé la première période et le début de la seconde, on s'est, ouais, on là se dirige tout droit quand même vers un bon vieux 0-0 des familles. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, les deux buts en fin de match. Parce que la Juve a trop pensé au 0-0, à gérer l'affaire, etc. Et comme la Juve a été trois crans en dessous, Ronaldo a été trois crans en dessous, et d'autres joueurs, Dybala notamment, mais c'est pas la première fois de la saison, malheureusement, et ben, au final, ça donne ce résultat très négatif pour la Juventus de Turin. Mais l'Atlético, certes, on n'aime pas trop leur style, mais quand même, ça marche. Et là, il faut tirer un coup de chapeau à Simeone, c'est que l'année dernière, il y a deux ans, on pensait que c'était un peu à bout de souffle, etc., que genre on avait un peu marre de ça. Et finalement, bah voilà, Ligue Europa l'année dernière, et là ils sont présents et sans doute en quart de finale de la Ligue des Champions.
En tout cas, je rappelle, merci Karim, merci à tous les consultants, Marion Hedalo, Karim Baldé, notre coach Tolé, Kamel Aïkera, et surtout notre invité Sidney Boutinovski. Merci.
Bravo.
Voilà. En tout cas, concernant la Ligue des Champions, je vous rappelle que le match entre l'Atlético, enfin entre la Juventus et l'Atlético, le match retour, c'est le 12 mars. En attendant, il y en aura d'autres bien avant. À partir du 5 mars, le Real contre l'Ajax, Dortmund contre Tottenham. Quant à nous, on se retrouve demain, 18h, 19h, avec l'équipe de Time Sport. Je rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag Time Sport sur Twitter et sur Facebook. À bientôt sur Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.